France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03, bien sûr il est temps de faire 2000 ans, le tour de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, le despote éclairé le plus célèbre du XVIIIe siècle, le roi de Prusse, Frédéric II. Je me console d'avoir vécu au siècle de Voltaire, cela me suffit. Frédéric II. Ans d'histoire. Roi philosophe, roi musicien et roi soldat, ami de Voltaire, monarque absolu et chef d'une des plus redoutables armées d'Europe, Frédéric II est l'incarnation la plus célèbre de ce qu'on appelait au siècle des Lumières le despotisme éclairé. Pendant 46 ans, il a régné sans partage sur l'État le plus puissant d'une Allemagne encore divisée, mais dont il a si profondément marqué l'histoire, qu'on dit souvent qu'il fut le premier artisan de son unité. Mais avant même de monter sur le trône de Prusse, Frédéric II fut aussi un des princes les plus cultivés de son temps. Grand lecteur de Rousseau, de Locke et surtout de Voltaire, amateur et même compositeur de musique, fasciné par la France dont il aimait la langue, la littérature et les arts, il s'accommodait mal en revanche de la discipline de fer que voulait lui imposer son père. Si bien qu'en 1730, à l'âge de 18 ans, il tenta de s'enfuir de Berlin en compagnie d'un ami, le lieutenant von Katte, une fugue dont les conséquences ont marqué Frédéric II jusqu'à la fin de ses jours.
Mon père m'avait violemment bastonné devant les ambassadeurs, alors j'ai prié Katte de m'aider à gagner l'étranger. Mon père l'a pris comme un acte de désertion.
Le fameux von Katte.
Oui, celui que l'on a décapité sous ma fenêtre. Quand j'ai voulu détourner le regard, deux grenadiers m'ont tenu la tête.
C'est inhumain, sire.
Un roi ordonne des exécutions, ce n'est pas plus mal qu'il en ait vu de ses propres yeux.
Jean-Paul Bled, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre biographie de Frédéric II, Frédéric le Grand, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait même de son vivant, vous rappelez justement ce moment dramatique de sa jeunesse, alors qu'il n'était encore que prince héritier de Prusse, quand son père donc a fait décapiter son ami von Katte sous les yeux de Frédéric II, un moment sans doute qu'il a profondément marqué et qui en dit long quand même sur l'éducation qu'il a pu recevoir de son père.
Alors, une éducation effectivement très dure, spartiate, et qui a été à l'origine de cette crise qui l'a conduit à vouloir s'enfuir. Cette tentative s'est soldée par un échec, et Frédéric Guillaume, le fameux roi sergent, son père, a sans doute hésité un moment sur la question de savoir s'il ferait mettre à mort ou pas.
Bon, il n'a... Son fils.
Son fils, ouais. Absolument, son fils. Bon, il n'a pas pris ce parti, mais il y a eu un autre châtiment que vous venez de rappeler, n'est-ce pas, où il a obligé Frédéric à voir de ses yeux la décapitation de von Katte. Alors, c'est vrai que par la suite... il n'y reviendra pas souvent. Bon, il y reviendra, on vient de l'entendre, et l'extrait...
C'est un téléfilm, oui.
Allemand. Mais il correspond à la réalité. Mais il n'est pas revenu souvent. Ceci dit, cela l'a énormément marqué. Si bien qu'il entretiendra avec son père une relation double. Son père l'obsédera toute sa vie. Toute sa vie.
Alors cet événement se passe 10 ans avant qu'il monte sur le trône.
C'est cela, 1730, et il monte en 1740.
Qui gouverne à la tête d'un État qui est assez récent. Hein, la Prusse n'est un royaume que depuis peu de temps.
Alors, la Prusse est un royaume depuis 1701, n'est-ce pas? Royaume qui, au départ, concerne ce que l'on appelait la Prusse orientale, ou ce qu'on appellera plutôt la Prusse orientale par la suite. laquelle s'ajoute à d'autres possessions comme le Brandebourg. On parle d'ailleurs de la maison de Brandebourg. À l'origine, c'est la maison de Brandebourg. Mais c'est vrai que cet ensemble de possessions, avec des éléments d'ailleurs sur le Rhin, forme un ensemble relativement modeste. Disons c'est un état moyen.
C'est le père de Frédéric II, c'est Frédéric Guillaume Ier, le roi Sergent, celui qui a fait décapiter son ami, qui a donné au fond à la Prusse l'instrument de ce qui sera sa puissance. Frédéric II, c'est l'armée. On l'appelait le roi Sergent. Et l'armée, déjà avant même que Frédéric II monte sur le trône, l'armée prussienne était telle, d'ailleurs, que plus tard Mirabeau disait, la Prusse n'est pas un état qui a une armée, mais une armée qui occupe un état.
Oui, le mot est effectivement très très connu. C'est une armée, au moment où Frédéric monte sur le trône, de 80 000 hommes. Alors, pour bien apprécier ce que cela représente, il faut savoir que l'Autriche, à la même époque, qui compte 6 fois plus d'habitants, eh bien, cette Autriche a une armée un tout petit peu supérieure à ces 80 000 hommes.
C'était une caserne, en fait, à la Prusse. En tout cas, un état et une armée dont Frédéric II prend la tête quand il devient roi en 1740, à la mort de son père, dont il est d'ailleurs très différent, hein, puisqu'avec Frédéric II, c'est un homme de culture qui monte sur le trône, un roi philosophe, comme on l'a appelé, très préoccupé par les livres qui se trouvaient à l'université de Berlin.
Si seulement Sa Majesté avait fait prévenir de sa venue, nous l'aurions mieux...
Que je n'y vois que du feu ? Il m'importe de voir l'université telle qu'elle est. La bibliothèque ?
Majesté.
Ah, très impressionnant. Rien que des vieilleries. Où sont les auteurs français ?
Nos moyens sont limités, sire. Nous essayons de nous procurer les meilleurs.
Les plus pieux ?
Les plus importants.
1200 talers de ma cassette.
1200, sire.
Nous avons le roi le plus moderne de toute l'Europe. Un merveilleux musicien et philosophe qui plus est.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le roi de Prusse, Frédéric II, et cette symphonie qui n'est pas dans cette émission par hasard, vous savez peut-être qu'il l'a composée, Jean-Paul Bled.
Eh bien, c'est un morceau dont l'auteur n'est autre que Frédéric le Grand.
Ça, c'est quand même extraordinaire, parce que roi philosophe, roi soldat, d'accord, mais roi musicien, et pas amateur de musique, compositeur, vous le dites, de musique.
Oui, alors, c'est effectivement intéressant, ce n'est pas un cas unique à l'époque. Chez les Habsbourg, par exemple, l'empereur Léopold, quelques décennies plus tôt, a composé un très grand nombre d'opéras et jouait lui-même d'un instrument, même plusieurs instruments.
Frédéric II jouait de la flûte.
C'est ça, son instrument préféré c'était la flûte et il en jouait tous les jours. Il se réservait tous les jours un certain temps, un temps relativement important, pour jouer de la flûte.
Il n'est pas mauvais compositeur, hein, c'est ce que me disait Frédéric Lodéon, là, juste avant l'émission. Il me disait, bah, c'était pas si mauvais, peut-être qu'il se faisait aider. Il faut savoir qu'il a reçu, il avait le fils Bach à demeure à Berlin, et qu'il a reçu le grand Jean-Sébastien
tout à fait.
À Berlin aussi.
Et alors, ça nous renvoie à une anecdote assez connue. Il a essayé de piéger le grand Jean-Sébastien en lui présentant une partition qu'il avait écrite lui-même, et une partition quasiment impossible. Et il lui a demandé d'improviser sur cette partition. Bon, c'était impossible, mais le lendemain, Jean-Sébastien a joué, mais en s'éloignant de la partition, le lendemain, eh bien, il lui a fait porter une partition à partir des notes qu'il avait assemblées.
Donc, il a reçu Bach, il a reçu, alors ça c'est beaucoup plus connu, pendant 3 ans, Voltaire, avec lequel il correspondait depuis très longtemps, quand il était encore prince.
Absolument.
Et ça, c'est son amitié pour Voltaire qui ne s'est jamais démentie tout au long de sa vie. Ils sont un peu brouillés, mais ils se sont ils ont correspondu ensemble toute leur vie.
C'est une relation effectivement très, dirais, disparate, qui commence donc avant que Frédéric ne monte sur le trône. C'est lui d'ailleurs qui prend l'initiative, je veux dire, Frédéric. Et là, sans doute, chacun y voit aussi son intérêt, mais même si cet aspect ne peut être ignoré, il reste qu'il y a de la part de Frédéric une réelle et profonde admiration pour Voltaire, dans lequel il voit le continuateur de l'esprit classique français.
Mais en même temps, on est un peu surpris, hein. C'était Chateaubriand qui écrivait cette chose amusante plus tard. Il disait « Le roi de Prusse et Voltaire sont deux figures bizarrement groupées. Le second, Voltaire donc, détruisait une société avec la philosophie qui servait au premier, Frédéric II, à fonder un royaume. » Est-ce que, au fond, c'était pas un peu un faire-valoir pour Frédéric II, le fait d'avoir Voltaire, ça lui permettait d'avoir une politique absolutiste?
Bien sûr.
En disant, mais non, mais j'ai la caution des philosophes.
Oui, certainement. Il l'a cherché. Il n'était pas le seul non plus, d'ailleurs. Catherine II a agi de même, à la même époque, avec Diderot. Mais il est certain que dans cette Europe des Lumières, il est très important pour un monarque de pouvoir se réclamer d'amitié avec des philosophes.
Catherine II fait la même chose avec Diderot.
Exactement. Ouais. Et alors, Voltaire, à l'époque, c'est en quelque sorte le prince des philosophes en Europe. Donc, pouvoir faire circuler qu'on entretient une correspondance, qu'on accueille à Potsdam, à Sanssouci, le dit Voltaire, eh bien, évidemment, cela ne peut que renforcer la gloire de Frédéric.
Vous avez dit Sanssouci, Jean-Paul Bled. Et alors, c'était le château qu'il a fait construire sur les plans du Trianon de Versailles. Il avait une passion pour la France, Frédéric II, pour la littérature française, pour la langue française. On parlait français à la cour de Frédéric II.
On parlait français à la cour de Frédéric II, et Frédéric, qui est on peut dire un écrivain, n'est-ce pas, qui écrivait tous les jours, eh bien, n'écrivait qu'en français. Et certes, pour ce qui concerne la correspondance diplomatique, il n'y a pas lieu de s'en étonner, mais à côté de la correspondance diplomatique, il y a beaucoup plus. Il y a des pièces de théâtre, il y a des poésies. Il écrivait tous les jours des poésies, et ces poésies représentaient 4 volumes. Donc, c'est important. Il a écrit des traités d'art militaire, des traités d'art politique, des traités de philosophie. Eh bien, tous, et ça représente 30 volumes, tous sont écrits en français.
Vous évoquez les traités de philosophie dans lesquels il exprime justement sa volonté d'exercer un pouvoir que doit exercer tout roi, d'ailleurs un pouvoir, disait-il, absolu, mais tempéré par une certaine tolérance.
Qu'a fait cet homme ?
Majesté, permettez votre très gracieuse Altesse que je salue humblement.
Assez, qu'on réponde à ma question.
Cet homme s'est rendu coupable de braconnage dans les bois de sa majesté.
Non, c'est un mensonge, je suis innocent.
Qui est le bourgmestre du village ?
Avec la gracieuse permission de sa majesté, c'est moi.
Le bourgmestre devrait donc savoir que la torture est abolie dans l'état de Prusse. Jasinski, dépendez-le sur le champ. Cet homme est libre. Il fera un vaillant soldat. En ces temps troublés, la Prusse a besoin de chaque homme.
Et c'était Frédéric II faisant libérer un braconnier pour en faire un soldat. Après avoir aboli la torture, ça c'est l'aspect le moins connu de Frédéric II. C'était aussi un roi réformateur et faisant des réformes assez libérales sur la torture, par exemple.
Oui, libéral pour son temps, c'est évident. Et c'est une mesure qu'il a prise dès les premiers jours. Après son accession sur le trône, ce qui montre à l'évidence l'impact que les idées des Lumières avaient sur lui. Mais il s'est pas arrêté là, il a réformé le système judiciaire, lui laissant non pas une indépendance totale, parce que malgré tout il se réservait la possibilité d'intervenir dans certains cas, mais par rapport à la plupart des systèmes judiciaires européens du temps, il est évident que les juges avaient une relative indépendance et beaucoup plus grande indépendance que la plupart des États.
Je crois qu'il a aboli la corvée, cela dit, il a quand même ménagé l'aristocratie foncière parce qu'il s'appuyait sur elle, Jean-Paul Bled.
Oui, bien sûr, sur les fameux Junkers. Il y a une espèce de pacte, si vous voulez, entre le roi. Quand je dis le roi, ça veut dire que cela valait aussi pour son père, n'est-ce pas ? Donc, il y a un pacte entre le roi et la noblesse. Pourquoi ? Parce que la noblesse fournit les cadres de l'armée. Et cette armée, on a déjà dit son importance, on va probablement la redire, cette importance. Donc, à partir du moment où la noblesse paye l'impôt du sang, et elle le paye lourdement durant le règne de Frédéric II, eh bien, en échange, les réformes du système agraire sont très très limitées.
Alors en revanche aussi, c'était un roi très tolérant en matière religieuse. Il disait toutes les religions se valent et sont également bonnes si les gens qui les professent sont d'honnêtes gens. C'est assez étonnant, cette Prusse protestante, État protestant, le roi est protestant, mais très tolérant pour les autres religions, Frédéric.
Alors là encore, l'impact des Lumières pour l'expliquer. Et en ce qui le concerne, Frédéric, on peut dire qu'il est déiste. Il croit en Dieu, mais il ne croit en aucune religion. Au fond, ça le rapproche d'ailleurs de Voltaire. Le grand horloger, le grand architecte, n'est-ce pas? On retrouve ce thème qui est commun aux deux amis. Pour le reste, il est effectivement soucieux d'assurer la tolérance, c'est-à-dire, par exemple, à titre personnel, il a un très profond mépris pour le catholicisme. Mais une fois qu'il a conquis, annexé la Silésie où il y a une majorité de catholiques, eh bien, il ne porte absolument pas atteinte à l'exercice du culte, et il fait plus puisqu'il fait construire une cathédrale catholique à Berlin, où il y a très très peu de catholiques, mais du fait de l'annexion de la Silésie, cela devient pour lui une nécessité.
Alors, il était aussi persuadé, ça c'était, il faut rappeler que Louis XV, Louis XVI se considéraient comme des monarques de droit divin, lui pas du tout, il considère que la monarchie ne tient pas du droit divin, hein, il se considère comme le premier serviteur de l'État. Si le roi, dit Frédéric II, est le premier juge, le premier général, le premier financier, il n'est que le premier serviteur de l'État. C'est une conception de l'État qui est assez récente, et d'un État absolutiste. Il en tient tous les rouages, Frédéric II. Alors là, de ce point de vue-là, on n'accepte pas les critiques.
Hein. Exactement. C'est l'absolutisme porté à l'extrémité de sa logique. Parce que si l'on compare avec la France, bien sûr, la France est une monarchie absolue, mais avec certaines limites. C'est le roi en son conseil. Mmh.
Bien. Alors les ministres, c'est vraiment des exécutants, hein, pur et simple.
Ce n'est rien d'autre que des exécutants. C'est tellement vrai qu'il ne les voit pour la plupart qu'une fois par an. Alors, il entretient des correspondances.
Il fait tout, il s'occupe de tout.
Voilà. Il entretient des correspondances avec eux. Les ministres lui transmettent leur avis. Et puis après, il tranche. Et une fois qu'il a tranché, eh bien, il reste au ministre à exécuter.
Et ça a duré, faut pas l'oublier aussi, c'est un des règnes les plus longs hein, de l'époque. Il a régné pendant 46 ans. Pendant 46 ans, il a régné seul, hein, pratiquement.
Exactement.
Et pendant un règne qui a été surtout, bien sûr, marqué par trois guerres contre l'Autriche, le roi philosophe devenait alors le roi soldat.
Tout indique que la guerre est imminente.
Demain, nous faisons mouvement.
J'ai fait remettre la déclaration de guerre à Vienne, à la bigote catholique. Qu'elle me laisse ce que je possède déjà.
Ou plutôt ce que tu lui as pris.
La Silésie est prussienne et elle restera prussienne, peu importe depuis quand et de quelle manière.
Oui? Que se passe-t-il?
Le général, monsieur le comte von la Riche, majesté.
À cette heure-ci?
Oui.
Les Prussiens ont franchi la frontière de la Bohême.
Évidemment, après la déclaration de guerre, on s'y attendait.
Oui, mais si vite, majesté.
Frédéric est toujours pressé.
Liebe unser
Et c'était le début d'une des trois guerres menées par Frédéric II contre l'Autriche et son impératrice Marie-Thérèse. Sur 46 ans de règne, il y a eu plus de 10 ans de guerre. Est-ce qu'on peut dire de Frédéric II que c'était un roi qui aimait la guerre, ou est-ce qu'il la faisait par nécessité, Jean-Paul Bled?
Par nécessité sans doute, même si lors du premier conflit, lorsque il envahit la Silésie...
Je répète, c'est en plus l'année même où il monte sur le trône.
Exactement.
Donc ça commence par une guerre.
Et l'année aussi où Marie-Thérèse monte sur le trône. Ouais. Tous les deux montent sur le trône à quelques mois de distance. La première fois, il y a aussi un appétit de gloire.
Ouais.
Il l'écrit à plusieurs reprises. Par la suite, ce sera certainement différent. parce qu'il aura découvert ce qu'est la guerre. Bon, alors après, ce sont ce qu'il considère être des nécessités. Évidemment, on peut toujours en discuter. Mais enfin, lui considère que c'est des nécessités auxquelles il est poussé.
Parce qu'il faut rappeler que la Prusse n'était pas d'un seul tenant. Hein. Il y avait la Prusse orientale, tout à fait à l'est. Il y avait la Poméranie, le Brandebourg au centre.
Oui,
il y avait également quelques territoires près de la France. Et il fallait rassembler tout ça. C'est une des raisons aussi de sa politique de guerre. Par exemple, il envahit la Silésie déjà pour rassembler ses États.
Tout à fait. Et on ajoutera que la Silésie était un véritable joyau, car donc elle appartenait à la maison d'Autriche, et c'était sa province la plus riche. Alors pour cette Prusse relativement pauvre, c'était une conquête d'une importance considérable. Et en plus, comme vous le disiez, elle arrondissait ses états. Alors... Ensuite, pour la guerre de 7 ans, c'est plus difficile à évaluer. Il a mené en quelque sorte une guerre préventive. Il pensait que la coalition franco-austro-russe allait l'attaquer et il a pris les devants.
Cette guerre, c'était la plus dure hein, pour la Prusse, parce qu'il y a eu des victoires. Il y a eu Rosbach contre Soubise, contre
oui,
la France.
Bien sûr.
Il y a eu aussi des défaites terribles. Et toujours un roi à la tête de ses troupes. Ça, c'est extraordinaire. On ne voyait absolument pas ça. Ni Louis XV, qui régnait à l'époque, ni Catherine II en Russie, ni Marie-Thérèse d'Autriche, bien sûr, n'était à la tête de leurs troupes. Là, c'est lui-même qui y va. Le roi soldat, c'était une vraie formule.
C'est une formule qui correspond à la réalité et qui, dans l'Europe de son temps, effectivement, représente un cas unique. Alors, dans le passé, il y a eu déjà, bien sûr, des rois soldats, mais François à l'époque où nous sommes, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est vraiment une particularité. Et certes, il a subi des défaites, c'est évident, mais le bilan global, d'un point de vue militaire, est certainement positif. Il y a eu beaucoup plus de victoires que de défaites, et il s'est imposé en quelque sorte comme un des grands capitaines, non seulement du temps, mais peut-être même de tous les temps.
Mais aussi un diplomate, Jean-Paul Bled, parce que c'est pas par la guerre, en fait, qu'il récupère un territoire très important. C'est aux dépens de la Pologne, c'est le fameux oui. partage de la Pologne qu'il partage avec la Russie et l'Autriche, là ils se mettent d'accord ensemble pour dépecer la Pologne. Ça lui permet de rassembler la Prusse orientale et la Poméranie avec un territoire autour de Danzig. Là c'était le roi diplomate.
Oui, bien sûr, tout en même temps qu'il guerroie, il est diplomate et ceci vaut pour l'ensemble du règne, sur les 46 années du règne. D'ailleurs, on possède sa correspondance politique, là qui fait non plus 30 volumes mais 50 volumes. écrit en français, encore une fois, et on voit bien comment les deux, l'art de la diplomatie et l'art militaire, sont associés.
Alors, bon, il meurt en 1786 avec un territoire qui a doublé en taille. D'ailleurs, c'est de son vivant qu'on l'appelait Frédéric le Grand.
Mais oui.
Pourquoi d'ailleurs?
Eh bien,
c'est d'ailleurs le titre de votre livre. Vous dites
oui.
pas Frédéric II, mais Frédéric le Grand.
Frédéric le Grand. Ce titre lui a été donné. Après les premières guerres contre l'Autriche, guerres au terme desquelles la Prusse a conquis et annexé la Silésie. Et de ce fait-là, la Prusse est entrée, si je peux dire, dans la cour des grands. De cet état moyen
oui.
auparavant est devenue une puissance européenne. Pas au niveau de la France, pas au niveau de l'Angleterre, sans doute, mais elle entre dans ce qu'on pourrait appeler le directoire des puissances européennes, disons des 5 grandes puissances avec la Russie, l'Autriche.
Est capable de rivaliser avec chacune d'entre elles, justement, puisqu'il a battu les Français, il a battu l'Autriche à plusieurs reprises. D'ailleurs, un siècle plus tard, c'est aussi contre l'Autriche que Bismarck était Premier ministre de son successeur, qu'un autre Prussien, donc Bismarck, va réunir les Allemands. On a dit souvent que Frédéric II, au fond, était le précurseur de cette réunification de l'Allemagne.
Alors, il a bien sûr, c'est un grand et grave problème que celui-là. C'est vrai que d'une certaine manière, il a posé les racines, mais je dirais sans l'avoir en perspective, sans que cela soit son objectif. Son objectif, c'est celui de limiter la puissance habsbourgeoise, mais il se situe beaucoup plus, si je peux dire, dans l'héritage de l'Europe de Westphalie, de l'Allemagne de Westphalie, c'est-à-dire une Allemagne
morcelée,
dans laquelle, bien sûr, la Prusse joue un rôle important. Mais l'objectif premier, c'est d'abaisser la maison d'Autriche.
Et pourtant, justement, Bismarck, qui a réunifié l'Allemagne, se réclamait de Frédéric II. Et plus tard, c'était beaucoup plus embarrassant, Hitler lui-même. Hein, Hitler, d'ailleurs, a fait consacrer plusieurs films à Frédéric II. Et manifestement, c'était des films de propagande. D'ailleurs, il n'était pas évoqué du tout ses relations privilégiées avec la France. Mais à l'évidence, ça, c'était très embarrassant. D'ailleurs, ça provoquait, vous le dites dans votre livre, après la Deuxième Guerre mondiale, un problème. C'est que Frédéric II était devenu une espèce de personnage pestiféré pour les historiens, les Américains. D'ailleurs, on refusait que son corps, qui avait été mis dans une mine à la fin de la guerre par Hitler, soit rapatrié à Berlin.
Oui, il est devenu un symbole, je dirais, malgré lui, dans une large mesure, je pense. Mais c'est vrai que cette sorte d'opprobre a pesé sur lui. Mais d'une certaine manière, il a encore été récupéré, si je peux dire, ultérieurement, et dans des temps donc plus proches de nous. Par exemple, la RDA, qui après l'avoir considéré comme un pestiféré, la réhabilité,
la Prusse rouge, on l'appelle.
La Prusse rouge, ouais. Tout à fait. Et c'est tellement vrai que le régime de la RDA a replacé sa statue équestre sur la grande allée Unter den Linden, et en a fait une sorte de héros.
Merci Jean-Paul Bled. Pour en savoir plus, je recommande la lecture donc de votre biographie de Frédéric II, Frédéric le Grand, un livre passionnant qui vient d'être publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du Baron de Trinque, un téléfilm allemand, en deux parties de Gernot Rohl. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne, Bénédicte Roy. Documentation Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain et après-demain, dans notre émission, un sujet de société très rarement traité par les historiens, les frères.